RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Dans 50 jours exactement débuteront les Jeux Olympiques à Paris et je vous propose de mouiller le maillot ce matin. On va parler sport et plus précisément sport à l'école qui, au-delà de la simple activité physique, favorise aussi l'apprentissage de valeurs aux élèves tels que l'esprit d'équipe, la discipline, le respect et la persévérance. Mais le sport scolaire se heurte à plusieurs défis, contraintes budgétaires, manque d'infrastructures adaptées et inégalité d'accès, des obstacles qui impactent la qualité de l'enseignement et la motivation des élèves. Le gouvernement en a presque fait son cheval de bataille et souhaite accentuer véritablement cette pratique sportive à l'école, notamment en ayant en ligne de mire la santé de nos jeunes qui sont de plus en plus confrontés à des problèmes d'obésité. Alors comment développer des stratégies adaptées pour surmonter ces obstacles et pour maximiser les bénéfices de l'éducation physique et sportive pour tous les élèves? Voilà le programme plutôt musclé ce matin. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Pourquoi d'après vous il faut développer le sport à l'école? Qu'est-ce que ça peut apporter aux élèves? Qu'est-ce que vous constatez avec vos propres enfants? Est-ce qu'ils aiment cette éducation sportive et physique? Et puis parlez-vous de nous, de vous plutôt, quels souvenirs avez-vous? Gardez-vous de vos cours de sport? Venez témoigner au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
J-50 avant le début des JO, je le disais, on verra dans la seconde partie de l'émission comment l'enseignement catholique s'empare du sujet à travers quelques initiatives proposées aux élèves. Ce sera à 10h. Mais pour discuter avec nous dans cette première partie, je vous présente nos deux invités. Je commence avec vous, Fabrice Boisumeau, bonjour.
Bonjour, bonjour Melchior, bonjour à tous.
Bienvenue à vous dans Je pense donc j'agis. Vous êtes professeur d'EPS de formation, chef d'établissement du collège Saint-Louis à Saint-Jean-Brévelay dans le Morbihan, c'est pas très loin de Vannes. Vous êtes aussi le vice-président de l'UCEL. Alors l'UCEL, c'est l'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre. C'est en fait la Fédération Sportive Éducative de l'Enseignement Catholique dont nous sommes partenaires ce matin pendant 2 heures. Un mot sur l'UCEL, c'est une fédération qui fonctionne dans toute la France?
Alors elle fonctionne dans toute la France, elle est plus ou moins représentée en fonction du nombre d'établissements de l'enseignement catholique sur les territoires en fait. Mais effectivement, et surtout depuis maintenant 2 ans, on a un maillage là qui est en train de se créer avec des responsables et des coordinateurs territoriaux qui font un travail exemplaire pour que le sport scolaire ait sa place et son rayonnement dans l'enseignement catholique un peu partout en France et dans les dom-tom aussi.
Voilà, ça c'est l'objectif de l'UCEL. Un mot sur le sport quand même, tant qu'à faire, Fabrice Boisumeau. Quelle est la place du sport dans votre vie?
Elle est centrale. Alors aujourd'hui, en tant que chef d'établissement, pour moi, un peu moins parce que j'ai un peu moins de temps et de disponibilité, mais ça fait partie effectivement des points d'appui éducatifs, on va dire, essentiels à mon sens dans tout ce qu'on met en place aujourd'hui. Alors on va le voir, notamment en cette année olympique où ça a été un peu le trait d'union et le fil rouge de beaucoup de projets dans beaucoup d'établissements scolaires. Mais effectivement, ça a une place centrale et on va le voir, c'est dans les enjeux de demain, c'est certainement un des leviers qu'il va falloir activer pour la jeunesse.
Merci Fabrice Boisumeau d'être avec nous dans cette émission. Je vous présente notre deuxième invité, Vincent Nougier, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci à l'équipe de Grenoble qui vous accueille en studio ce matin. Vous êtes professeur à l'université Grenoble-Alpes et vous êtes aussi responsable d'un groupement de recherche du CNRS intitulé Sport et activité physique. Que vient faire le CNRS à propos du sport, Vincent Nougier?
Eh bien, les groupements de recherche, ce sont en fait des réseaux fédératifs de chercheurs et de laboratoires. Et donc, le CNRS joue un rôle de service public en cherchant à développer au maximum les activités de recherche sur toutes les problématiques autour du sport et de l'activité physique.
Voilà, sport et activité physique, avec aussi un œil sur le lien entre le sport et la science, Vincent Nougier.
Oui, tout à fait. Le sport nourrit la science parce que c'est un sujet d'étude qui est très très important. Et évidemment, la science peut contribuer à comprendre quels sont les mécanismes de la performance, quels sont les impacts de la santé, de l'activité physique sur la santé, comment aménager, je dirais, le territoire français pour favoriser la pratique de l'activité physique, etc., etc. Les problématiques également d'environnement.
Oui. Vincent Lougier, quelle est la place du sport dans votre vie? Est-ce qu'il faut être sportif? Alors, est-ce qu'il faut aimer le sport pour faire partie de ce groupement de recherche?
Pas nécessairement, puisqu'il y a des gens qui sont des chercheurs et qui ne sont pas forcément des sportifs. Pour ce qui me concerne, oui, le sport fait partie de ma vie depuis toujours. Et je dirais que malheureusement, mais ça c'est peut-être aussi un des sujets que l'on va discuter aujourd'hui, elle ne l'est pas suffisamment, compte tenu des impératifs familiaux ou professionnels que nous pouvons tous avoir les uns et les autres.
Alors ce matin, vous allez l'entendre, on va beaucoup parler de ce qu'on appelle l'EPS, hein, l'éducation physique et sportive. Fabrice Boisjumeau, pardon, qu'est-ce que c'est vraiment l'EPS? Parce que autant on a tous connu des cours d'EPS, on ne sait pas vraiment mettre quelque chose derrière.
Ouais, alors faut bien distinguer, alors, peut-être pour tout le monde et nos auditeurs, donc l'EPS, il y a deux parties. Il y a la partie des programmes, la partie obligatoire que tout élève a dans son cursus d'enseignement. Et puis, il y a la partie sport scolaire. Et là, c'est effectivement des activités qui sont proposées en dehors des temps obligatoires institués, en fait. Donc, l'EPS, c'est quoi l'EPS? C'est une grande question, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Non, l'EPS, c'est une discipline d'enseignement qui a trois grandes visées. La première, c'est du développement intégral de la personne et notamment sur le plan de sa motricité pour pouvoir en fait répondre à tous les situations de la vie courante de demain et dans son activité physique de demain, être préparé pour pouvoir maîtriser l'activité sans se blesser et en comprenant les enjeux de l'activité qu'il aura à faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est un aspect, ça a été évoqué par l'autre intervenant, excusez-moi, j'ai oublié son prénom.
Vincent, pardon.
Ça va être aujourd'hui un enjeu de santé. Ça l'a été post-guerre, si on revient un petit peu dans l'histoire. Après, on a eu un courant sportif. Et puis là, on voit bien aujourd'hui, les chiffres certainement qui vont être donnés ce matin vont révéler qu'effectivement, aujourd'hui, on a un enjeu de santé. L'éducation physique a aujourd'hui un rôle essentiel sur la santé des jeunes. Et puis le troisième enjeu, qui n'est pas des moindres, c'est un enjeu de sociétal, hein, de formation du citoyen. Alors pour nous, enseignement catholique, ça va encore au-delà, puisqu'on est dans un développement intégral de la personne, le pape l'a redit, Laudato aussi, on est dans une formation vraiment fraternelle du jeune qui va au-delà, mais effectivement, on a cette dimension sociétale de l'enjeu de formation du citoyen. On va dire que c'est les trois grands chapeaux de l'EPS aujourd'hui, mais ça l'a toujours été, hein, mais qui sont plus ou moins marqués en fonction des temps et des évolutions sociétales, en fait.
Donc quand on parle vraiment du sport à l'école, ça englobe à la fois l'EPS et puis toute autre proposition des établissements.
Exactement, ouais. Souvent, quand on dit le sport à l'école, il y a ce que tout élève va avoir dans son cursus et doit apprendre et doit vivre en tant qu'enseignement. Il y aura donc tout élève en France doit avoir le même programme dans son cursus scolaire, avec des activités plus ou moins variées en fonction des infrastructures disponibles. Ça, c'est un point. Autant les maths, vous pouvez faire les mêmes maths partout en France, autant l'EPS, en fonction des infrastructures disponibles, vous ne pouvez pas proposer les mêmes activités. Vous allez avoir des programmes qui vont se retrouver, mais les activités vont pas forcément être les mêmes. Et puis le sport scolaire, lui, l'activité sportive en tant que telle, elle est effectivement annexée, elle est proposée à tous les élèves et on essaye maintenant aussi de l'ouvrir au maximum. Avant, c'était assez codifié avec des entraînements très sportifs, très scolaires qui allaient à la compétition. Aujourd'hui, le sport scolaire s'ouvre aussi vers des activités d'ateliers sportifs ou vers le midi pour que tous les élèves, pour qu'on puisse toucher un maximum d'élèves, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire de l'activité physique à nos jeunes.
Vincent Lougier, pourquoi c'est important de rechercher, de faire des études sur l'activité physique, et notamment à l'école?
Alors, c'est important parce qu'il faut arriver à comprendre, évidemment, quels sont les effets de l'activité physique sur la santé, sur l'organisme, d'une manière générale. Ça, c'est la première chose. Mais il faut aussi arriver à comprendre quels sont les leviers qui permettent de mobiliser les gens à faire de l'activité physique. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il faut aussi arriver à comprendre, donc dans ces leviers, vous avez des leviers qui sont des leviers, je dirais, individuels, c'est-à-dire comment jouer sur la motivation, sur l'estime de soi, sur le fait qu'on se sent capable ou pas de faire de l'activité physique, à tort ou à raison. Et puis, il y a aussi des leviers, je dirais, plus institutionnels ou en termes de politique publique, à savoir qu'il faut aussi développer, bien sûr, des infrastructures, organiser la sécurité, permettre l'accès tout en gérant aussi le problème de la massification des pratiques, par exemple, aux activités de pleine nature. Donc, ça suffit pas simplement de dire, oui, il faut faire du sport. Il faut aussi prendre en compte tout un ensemble de dimensions, par exemple, de protection de l'environnement. Comment est-ce qu'on gère une surfréquentation, par exemple, de l'accès au Mont-Blanc, pour ne prendre que cet exemple-là.
Oui. Quelques chiffres, quelques données, c'est important pour vraiment poser le décor. Déjà, rappeler qu'Emmanuel Macron a vraiment déclaré que la pratique du sport, c'était une grande cause nationale pour l'année 2024 et notamment avec les Jeux Olympiques à Paris. Et puis, en France, 14% du temps scolaire est consacré à l'éducation physique et sportive. Fabrice Boishumeau, c'est un chiffre qui peut sembler faible et pourtant c'est le plus important parmi nos pays européens. Fabrice Boishumeau.
Ouais, alors je vais tempérer cette statistique.
Oui. Allez-y.
Parce que effectivement il y a eu une volonté politique de. Alors je pense si on prend l'école primaire, il y a eu une augmentation du temps de pratique demandé, notamment ce qu'on appelle les APQ, les activités physiques quotidiennes, qui ont été ajoutées à la hauteur de 30 minutes. Puisque c'était une préconisation, notamment au niveau de la santé. Malheureusement, dans les faits, on s'aperçoit que ce temps-là a évincé et effacé dans beaucoup d'écoles le temps de l'éducation physique. C'est-à-dire que sur le papier, effectivement, on devrait avoir de l'éducation physique régulière dans la semaine, plus les APQ. Mais malheureusement, beaucoup d'enseignants, pris par les programmes, les injonctions, n'arrivent pas à mettre en place, ou parce qu'il n'y a pas d'accès aux infrastructures, hein, tout simplement, et se contentent malheureusement aujourd'hui de ne faire plus que des APQ, c'est-à-dire faire des petites activités physiques de 30 minutes où les élèves sont en mouvement, c'est bien, mais là, on n'est plus dans l'éducation physique, où là, on pose les fondements de compétences qui sont motrices, qui sont stabilisées et qui vont servir dans d'autres champs d'activité ou dans d'autres domaines. Donc là, on observe dans les écoles qu'effectivement c'est une tendance qui revient assez souvent. Donc on n'arrive pas finalement à tout à fait aux chiffres voulus. Et puis après, en collège, il y a une activité physique. Là, c'est pareil pour les élèves. C'est 4 heures en 6e, donc ça, c'est très bien, 2 fois 2 heures. Mais par contre, après, on n'a plus que 3 heures. Et alors après, c'est peau de chagrin en lycée, puisqu'on n'a plus que 2 heures. Alors quand vous faites le calcul d'un élève qui se déplace, s'il n'a pas sa salle dans son établissement, qui doit se changer dans son vestiaire et qui doit aller faire son activité physique, sur 2 heures, il reste à peine 1 heure d'activité physique. Quand vous mettez 1 heure sur la barrette d'un emploi du temps d'un lycéen, vous allez voir qu'on est très très loin des 14%.
Ça ne suffit pas alors, Vincent Nougier, c'est trop faible pour la France, où ces 30 minutes d'activité physique donc que vous appelez les APQ, c'était quand même une bonne idée, en tout cas d'obliger, on va dire, les élèves à pendant 30 minutes par jour en vraiment faire ça, mais ce n'est pas suffisant.
Alors, c'est sans aucun doute une bonne idée, on va pas évidemment je dirais cracher dans la soupe. Je crois que ce qu'il faut, c'est en fait, il y a trois termes ou trois piliers sur lesquels il faut bien comprendre comment ils interagissent entre eux. Il y a d'une part ce que l'on peut appeler l'activité physique, et ça c'est quelque part le fait de bouger. Et effectivement, on peut avoir une éducation à l'activité physique et au bouger, et on peut bouger de façon très très différente, y compris en dehors de l'école. Vous avez le sport qui renvoie plutôt souvent, d'une manière générale, à la dimension compétition ou en tout cas de loisirs que l'on fait pendant le week-end, en famille, dans un club, etc. etc. Et puis vous avez aussi la troisième problématique qui est celle de la sédentarité. Et faire de l'activité physique ou faire du sport n'empêche pas la sédentarité. La sédentarité, c'est le fait que nous passons beaucoup de temps assis à l'école. Et c'est pas parce que vous faites du sport, par exemple, à la fin de la semaine, 2 heures le samedi et 2 heures le dimanche, que pour autant vous n'êtes pas quelqu'un qui est sédentaire. Donc ça, c'est toute la problématique, elle est là, et évidemment, il faut arriver à faire en sorte que ces pratiques d'activité physique, d'activité sportive et de lutte contre la sédentarité, eh bien, elles sortent du système scolaire. L'école n'est pas la seule responsable de tout cela. C'est l'ensemble de la société qui doit s'organiser. Et c'est pour ça que je fais très souvent la différence entre finalement ce qui caractérise un petit peu la France, à savoir qu'on a une culture sportive. On est pratiquement les meilleurs au monde ou parmi les meilleures nations au monde en termes d'organisation de très grands événements sportifs. Il y a les Jeux Olympiques, il y a la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde de rugby, etc., etc. On pourrait faire une liste, je dirais, assez longue de toutes ces pratiques, de toutes ces événements organisés en France. Et puis il y a ce que manifestement il manque beaucoup encore en France, c'est finalement une culture de l'activité physique, c'est-à-dire le fait que chacun se prenne en charge pour pratiquer au quotidien, soit de l'activité physique, simplement par exemple se déplacer à pied, monter les escaliers plutôt que d'utiliser un escalier mécanique, etc., etc. Et ceci à tous les étages de la population.
On parle du sport à l'école ce matin dans Je pense, donc j'agis avec nos deux invités et puis bien sûr avec vos témoignages. Le standard est ouvert. Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment aller beaucoup plus loin quand on parle du sport à l'école? Qu'est-ce que ça peut apporter aux élèves d'après vous? Qu'est-ce que vous constatez avec vos propres enfants? Et puis quels souvenirs avez-vous de vos cours de sport? 04 72 38 20 23 pour témoigner ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec Vincent Nougier, professeur à l'Université Grenoble-Alpes et responsable du groupement de recherche CNRS Sport et Activité Physique. Et notre deuxième invité, Fabrice Boisumeau, professeur de PS de formation. Vous êtes également chef d'établissement du collège Saint-Louis à Saint-Jean-Brévelay dans le Morbihan et vice-président de l'UCSEL, l'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre. C'est la Fédération Sportive Éducative de l'Enseignement Catholique. Je vois deux choses dans tout ce que vous avez dit depuis le début de cette émission. Il y a déjà, bien sûr, cette nécessité d'aller beaucoup plus loin dans les propositions sportives au sein des établissements scolaires, donc à l'école. Mais ça, Fabrice Boisumeau, c'est une première chose. Encore faut-il donner aux jeunes le goût de discipline sportive. Et ça, c'est un vrai défi.
Ouais, c'est un vrai défi. Alors, c'est un vrai défi parce que ça a été évoqué par Vincent. On a quand même aujourd'hui une jeunesse qui est beaucoup plus sédentaire qu'avant, avec de l'inactivité physique, notamment liée à la pratique des écrans. Et effectivement, les remettre en projet sportif et en activité physique et sportive, c'est un enjeu essentiel. Alors pour ça, les professeurs, moi j'ai envie de dire mouillent le maillot, hein, parce que l'idée c'est quand même qu'ils leur fassent des propositions pédagogiques intéressantes pour que les jeunes aient envie d'entrer dans l'activité physique. Donc aujourd'hui, on a quand même la chance, par rapport à ce qu'on a pu connaître au départ, d'avoir une palette d'activités de support, ce qu'on appelle les APS, hein, les activités physiques que l'on peut proposer. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que chaque jeune, normalement, doit pouvoir trouver une activité qui lui correspond dans son cursus annuel, puisqu'on doit varier les activités. Je prends un exemple, il y en a qui ont plus d'appétence pour les activités artistiques. Ça, c'est devenu obligatoire dans les programmes. Donc, de toute façon, un jeune aura des activités artistiques à un moment. Ça peut être des activités plus compétitives, athlétique, sportive, ça peut être des activités coopératives avec les sports collectifs, les activités de création gymnique à plusieurs comme l'acrogym, voilà, des activités de raquettes. Enfin, donc on arrive aujourd'hui globalement à accrocher tous nos élèves. L'EPS a encore un trait d'activité assez fort chez nos élèves. C'est-à-dire que quand on questionne les jeunes, c'est quand même une des disciplines qu'ils préfèrent quand ils viennent au collège, et tant mieux. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est de les faire tenir dans le temps, dans l'activité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le niveau moteur et le niveau des capacités physiques a baissé. Un chiffre, hein, c'est celui du professeur Carré, en une génération, on a perdu 25% de capacité cardiaque. C'est énorme. C'est-à-dire que sur les tests, en une génération, les jeunes d'aujourd'hui ont perdu 25% de leur capacité cardiaque par rapport à la génération d'avant. Donc, vous voyez, l'enjeu est énorme. Et du coup, effectivement, au-delà du plaisir de l'activité qu'il faut avoir, il va falloir quand même que les jeunes soient plus sollicités dans le temps d'activité pour pouvoir retrouver cette condition physique qui est essentielle pour leur santé, en fait.
Le professeur François Carré, qu'on avait convié pour cette émission et qui malheureusement n'a pas pu se rendre disponible. Vincent Nougier, qu'est-ce que ça fait aux élèves de faire du sport? Si on parle un peu plus physique et technique, voire science, qu'est-ce que ça leur apporte? apporte physiquement parlant?
Alors évidemment, je dirais que toute pratique d'activité physique ou d'activité sportive, puisque moi je fais bien la différence entre les deux, je dirais joue sur plusieurs dimensions de l'individu. Ça joue évidemment sur nos capacités physiques, que ce soit capacité pulmonaire ou capacité cardiaque, donc sur notre capacité de faire un effort pendant un temps, je dirais, suffisamment long. Ça joue sur notre capacité en termes d'équilibre, tout simplement, donc pour éviter par exemple la chute, que ce soit en vélo ou que ce soit au cours de la marche. Ça sert également pour développer nos capacités de coordination motrice, qui sont finalement ce qui nous permet tous les jours d'assurer, je dirais, notre interaction avec l'environnement, dans les objets que nous manipulons, que nous saisissons, etc., etc. Et puis, ça permet aussi de développer, je dirais, des capacités sur le plan mental ou sur le plan de la sphère mentale au sens général du terme. Alors, à la fois en termes cognitifs, on sait que l'activité physique aide aux apprentissages cognitifs, donc dans les disciplines comme les mathématiques, etc. Ça, c'est une première chose. Et puis, ça sert aussi, d'une manière générale, à ce que souvent on met sous le terme de bien-être, c'est-à-dire se sentir bien dans sa peau, avoir une, je dirais, être dans un esprit plutôt positif. Et donc, évidemment, cette dimension-là, elle est aussi très, très importante parce que c'est ça qui nous fait aussi qui nous mobilise, je dirais, au quotidien. Et puis, il y a une dernière dimension qui est aussi celle des interactions sociales. C'est-à-dire qu'à travers le sport, on peut favoriser les échanges, on peut favoriser l'intégration. Alors, je pense en particulier aux handicapés. Vous avez parlé des Jeux olympiques, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des Jeux paralympiques et que cette dimension-là aussi est importante. Et le sport peut contribuer à cette intégration.
Fabrice Boisumeau, peut-être pour compléter, vous, en tant que professeur de PS, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que ça apporte vraiment aux jeunes?
Ben, l'apport, il est multidimensionnel. Le premier apport, il est essentiellement déjà de, et je rejoins ce qu'a dit Vincent, c'est permettre aux jeunes d'aller vers un bien-être. Ça, aujourd'hui, c'est indispensable. Et l'activité physique, effectivement, n'est pas juste motrice, c'est-à-dire qu'elle est, quand je suis en interaction sportive, je vais développer des compétences, ce qu'on appelle cognitives, c'est-à-dire tous les processus, les schémas neurologiques qui se passent dans le cerveau. Et effectivement, tout ce travail-là est un point d'appui sur les apprentissages scolaires, en fait. Et ça a été, effectivement, comme ça a été relevé, démontré. Le deuxième enjeu, il est relationnel, effectivement, il est social. C'est-à-dire que moi, je vois bien que les jeunes, ils ont besoin d'interaction pour apprendre à vivre ensemble. On parle beaucoup du harcèlement, notamment à l'école, enfin des choses comme ça. Voilà un des enjeux aujourd'hui dans la pratique du sport, où effectivement, on apprend aux jeunes à se confronter à l'autre, à accepter l'échec, la victoire, la confrontation, le duel, à respecter des règles, à accepter l'arbitrage, à prendre le rôle d'arbitrage. Enfin voilà, les rôles sociaux en EPS sont très importants et justement ils permettent de développer ce qu'on appelle le vivre ensemble dans des situations qui sont codifiées justement. Et ça aujourd'hui c'est un enjeu essentiel, mais effectivement on aurait envie d'en faire un peu plus comme levier. Puis un autre point quand même qui est important, c'est que l'EPS aujourd'hui telle qu'elle est enseignée, avec la formation de qualité qu'il y a dans le second degré, je reviendrai sur la formation du premier degré tout à l'heure, c'est une discipline qui collabore aux autres apprentissages. Je vous donne un exemple, la lecture de cartes aujourd'hui, par exemple, les jeunes aujourd'hui, c'est essentiel qu'ils puissent apprendre à s'orienter. Aujourd'hui, les gens, ils partent en vacances, ils utilisent leur smartphone, s'il n'y a plus de batterie, ils savent plus comment revenir à leur hôtel. Si on leur a pas appris à lire une carte, à s'orienter à travers un plan, etc. Donc, par exemple, on fait de la course d'orientation en EPS. Ah oui. Mais c'est aussi en lien avec les programmes d'histoire. On travaille en lien avec le programme de mathématiques pour faire des échelles, pour calculer des distances. Enfin, aujourd'hui, il y a des projets interdisciplinaires comme ça où on retravaille des notions disciplinaires dans différents environnements scolaires dont l'EPS, effectivement, favorise. Donc, il y a un enjeu vraiment multidimensionnel.
Et je parlais de valeurs d'ailleurs dans mon introduction tout à l'heure, des valeurs comme l'esprit d'équipe, la discipline, le respect, la persévérance. Ça rejoint vraiment ce fameux vivre ensemble que vous avez évoqué, Fabrice.
Ouais, il y a effectivement ça, c'est essentiel. Et puis il y a aussi apprendre à gérer l'effort et à aller dans l'effort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une valeur certainement qu'il faut accentuer chez nos jeunes, parce que la réussite ne passe que par l'implication et le travail. C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu de talent, mais le talent seul ne suffit pas. Ouais. Et les jeunes doivent effectivement, par le sport, apprendre à entrer dans l'effort et à accepter l'effort comme une contrainte, mais qui amène la réussite. Et on voit bien les jeunes qui performent, généralement tous nos jeunes qui performent, notamment dans le sport et dans le sport scolaire, derrière, en termes d'avenir et de transfert de compétences dans le monde professionnel, tous les professionnels nous disent, ce jeune-là, moi, je le prends demain. Ouais. Il a le goût de la persévérance, de l'effort, du respect de l'autre, du respect des règles, de l'implication. Et effectivement, ça se transfère, quand je parlais en introduction d'enjeux citoyenneté, c'est aussi ça. C'est quel jeune on veut former, quelle personne on veut former demain aussi pour le monde de l'entreprise, tout simplement, et le monde sociétal.
On va marquer une petite pause. On se retrouve dans un instant. Fabrice Boishumeau et Vincent Nougier, vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous parler du sport à l'école. Qu'est-ce que ça vous évoque et quels souvenirs gardez-vous de vos cours de sport et de PS? 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense donc j'agis, vous l'entendez, on parle du sport à l'école en partenariat avec l'enseignement catholique. On va écouter de la musique tout de suite et ça va vous laisser le temps de nous appeler pour témoigner et réagir au 04 72 38 20 23.
De mon amour je te donne la totalité. Mes arrivées, mes départs, la dualité.
De mes virages, mes ratures, quand j'envisage en démesure. De mes douleurs, de mes joies, la réalité.
Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter, et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité.
De tous mes torts je te donne la totalité. Tous mes défauts j'en ai pas en réalité.
Tous mes mensonges, mes humeurs, tous mes envols être ailleurs. Je suis sûr de mes doutes, la complexité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter, et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Toute ta totalité. Toute ta totalité. Toute ta totalité. Toute ta totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter, et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Total.
Ma totalité, c'était Gaëtan Roussel et Maggio pour vous accompagner en ce jeudi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
avec Vincent Nougier, professeur à l'Université Grenoble-Alpes et responsable du groupement de recherche du CNRS Sport et Activité Physique, et Fabrice Boisumeau, chef d'établissement et vice-président de l'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre. Jocelyne nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Jocelyne.
Oui, bonjour et merci. Je vais vous dire le bienfait de sport, justement, parce qu'on n'est pas l'esprit, comme dit la Bible, on est le corps et l'esprit. C'est en entretenant le corps que l'esprit va être bienveillant envers soi-même, envers les autres. Moi, le sport m'a éduqué comme tout, à l'âge de 14 ans, parce que je viens de pays pauvre. Ce qui est bien là-bas, par rapport au sport, ça commence seulement à partir de collège. Et au collège, à chaque école, ils ont leur propre équipe. C'est à partir de ça qu'on évolue. C'est-à-dire il y a match inter-classe, match inter-école, et ça m'a éduqué. Ce qui est bien aussi, c'est bon à savoir, en Afrique, tous les individus sportifs, ils ont au moins 3 licences. Parce qu'il y a des, quand c'est les saisons mortes, ça enchaîne d'autres disciplines. Ce qui fait aussi que c'est gratuit. Quand je dis gratuit, c'est le club et l'école qui paient les licences et le certificat médical. Et donc, il n'y aura pas de prétexte pour dire que ah, c'est cher, ah, j'ai pas le moyen.
Vous parlez
donc,
de Madagascar, moi, hein, Jocelyne.
Je viens de Madagascar, voilà. Oui. Du nord de Madagascar.
Donc, le sport vous a porté et vous porte encore, Jocelyne, maintenant.
Comment ?
Le sport vous porte encore ?
Jusqu'ici, justement, quand j'étais à Madagascar, j'avais licence de basket, j'étais meneuse, j'avais licence de handball, j'étais gardien de but, j'avais licence aussi de foot.
Ça, c'est même
l'État qui paye tout. Oui, tous les sportifs à Madagascar, ils ont, parce que après, quand c'est saison morte de hand, on enchaîne basket, on enchaîne le foot, et on s'ennuie quand on est grand sportif. Mmh. Et ce qui est bien dans mon histoire, hormis que j'ai dit à mes enfants, je vais vous emmener là où j'étais heureuse. Mmh. Le sport, l'église et aussi le loisir, la danse et tout ça. Et c'est grâce à ça qu'ils ont fait des études. Pourtant, je ne travaille pas. Mmh. Et mon mari qui était agriculteur, enfin bref. Et puis, ce qui est bien, je me disais, je gardais les terrains de basket.
Oui.
Et de foot. J'ai dit, j'arrête le foot parce que c'est trop énorme le terrain.
Mais non, en tout cas, on sent à quel point, Jocelyne, ça vous porte encore aujourd'hui. Et merci beaucoup de nous avoir raconté un peu vos souvenirs. Vincent Nougier, c'est toujours sympa hein, d'entendre les petites réactions des auditrices et des auditeurs. Jocelyne, elle a commencé son témoignage en nous disant le sport, c'est vraiment le corps et l'esprit. Ça, on n'en a pas parlé de l'esprit, on a beaucoup parlé du corps. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, le chercheur que vous êtes?
Oui, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que la pratique sportive ou d'activité physique avait un impact sur nos compétences cognitives. Donc, oui, ça permet, ça joue évidemment sur ces dimensions-là, ne serait-ce que parce que si on est détendu, on réfléchit mieux. Ça permet aussi de développer tout un ensemble de capacités, par exemple décisionnelles. Quand vous êtes face à un adversaire et qu'il faut prendre une décision pour envoyer le ballon à droite ou à gauche, donc vous voyez bien qu'on dans n'importe quelle performance sportive, je dirais que toute la dimension cérébrale intervient évidemment.
Ouais. Fabrice Boisumeau, pour compléter.
Oui, ben complètement. Alors, il y a ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire la face cachée de l'iceberg, c'est-à-dire c'est tout ce qui se passe dans le cerveau quand on pratique une activité physique. On en a parlé tout à l'heure, là, tous les schémas cognitifs qui se mettent en place. Et puis il y a aussi la partie, on l'a évoqué aussi, la partie. Alors là, je pense, elle faisait écho aussi à ça, notre auditrice, toute la partie du développement mental, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'esprit de compétition, est-ce que je suis persévérant, est-ce que j'accepte la confrontation, est-ce que, et toutes ces valeurs un petit peu que le sport véhicule en fait, qui elles sont visibles et qui sont fondamentales effectivement déjà pour rentrer dans l'activité et puis surtout pour progresser dans l'activité et ça ce sont effectivement ces deux champs effectivement au niveau de l'esprit et puis après nous on a aussi la partie on va dire formation de la personne intégrale, c'est ce que j'avais dit un petit peu aussi au départ, où effectivement on cherche dans nos activités à aussi développer un esprit, alors je sais pas, on va parler de fraternité, on va parler de partage. Moi j'ai vécu cet été un échange autour de la paix. Aujourd'hui on a quand quand même des conflits un petit peu partout, et on a vu des jeunesses internationales, on a eu les jeux de la FISEC, donc des jeux internationaux organisés en lien avec Luxel en France, à Dunkerque, où on avait plus de 17 pays représentés, des jeunes du monde entier, et là, effectivement, là on voit les valeurs du sport et ce que ça peut générer au-delà des valeurs, en termes d'esprit de fraternel et de formation de la personne et de la rencontre de l'autre dans sa différence. On voit que là, on est sur des enjeux effectivement très 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 importants, notamment au regard de ce que peuvent entendre nos jeunes et faire vivre la rencontre de l'autre dans la différence et s'apercevoir qu'en fait, c'est une vraie richesse. Ça, c'est aussi un enjeu éducatif essentiel. En tout cas, pour nous, et notamment à Luxel, c'est un des points qu'on cherche à lever.
Comment on appréhende aussi l'influence des attentes sociétales en matière de sport? On parle souvent de la pression pour la performance et le succès sportif. Parfois, cette pression, elle peut apporter énormément de frustration. Comment ça, on gère avec les élèves?
On leur explique, là, je veux parler de moi. Mais on leur explique en fait que la gestion des émotions et la pression, il en faut un peu. C'est-à-dire que le stress, en fait, moi, je leur explique qu'il y a du stress positif et du stress négatif. Donc, il faut monter un petit peu en pression parce que c'est ce qui éveille la concentration, l'attention qui génère chez nous la libération d'hormones qui nous permettent d'être plus performants dans l'activité physique. Mais ça, ça s'apprend. Il faut apprendre à gérer ses émotions parce que du stress positif, il en faut. Par contre, si on ne maîtrise pas suffisamment ses émotions et que là, effectivement, on est en surpression où on dépasse ses émotions, on bascule dans un stress négatif qui, là, nous fait plutôt déjouer, en fait, et perdre nos moyens. Donc, en fait, ça, c'est aussi un apprentissage dans le sport. Et c'est un des points que les enseignants appréhendent avec leurs élèves, leur apprennent. Et ça, c'est aussi formateur pour plein de situations de la vie de demain. Préparer un oral, un entretien d'embauche, enfin, etc. Ce sont, et quand je parlais d'enjeux qui, effectivement, sont transférables demain, eh bien, ça s'en est un, par exemple. Ouais.
Et ça rejoint Vincent Lougier, cette distinction corps et esprit. Le corps, autant, il y a les possibilités physiques, l'esprit peut être motivateur également.
Alors, l'esprit peut évidemment être motivateur, mais il ne faudrait pas le réduire uniquement à cette dimension-là. Ouais. Quand je parlais, par exemple, de coordination motrice, quand je parlais d'équilibre, etc., ce sont des compétences dont nous avons besoin au quotidien et qui sont développées par la pratique d'une activité physique, quelle qu'elle soit. Donc, évidemment, la dimension bien-être, relationnel, gestion du stress, tout ça, ce sont des dimensions qui sont bien sûr importantes et qui sont qu'on peut développer à travers la pratique de l'exercice, de l'activité physique. Mais il y a aussi la dimension, il ne faut quand même pas oublier que nous avons un cerveau et que ce cerveau, quelque part, il pilote un peu, globalement, il pilote quand même nos muscles, il pilote nos mouvements. Et que c'est malheureusement une tendance qui est encore très forte, y compris dans le domaine d'ailleurs du sport de haut niveau. On pense à développer la force musculaire, on pense à développer la technique, etc. etc. Et toute la dimension, je dirais, cérébrale, qui participe à l'entièreté de la performance, a tendance à être largement mise de côté, y compris dans le domaine de la recherche.
Bernadette, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes à Angers, c'est à vous.
Oui, alors moi je suis la pire des élèves de gymnastique. J'ai fait de la gymnastique dans mon école. Je n'aimais pas le prof. J'ai été heureuse quand elle a été enceinte et on n'avait pas de gym, on avait études à la place. Donc, alors, on m'a pas présenté au concours pour le brevet, le bac, tout ça. Comment est-ce que j'y ai coupé, je ne sais pas. Mais j'étais gauchère contrariée, mais il ne fallait pas y être à l'époque. Et donc, et mal latéralisée, toujours mal latéralisée. Je ne sais pas reconnaître ma gauche de ma droite. Bon, enfin, vrai, la plus mauvaise élève, pointée. Et puis, j'ai vieilli.
Oui.
À 74-15 ans, l'hôpital d'Angers m'a prise, je ne sais pas pourquoi, pour essayer d'éviter de grossir un peu, enfin dans un truc assez extraordinaire. Et voilà que je me trouve à 75-76 ans, élève dans un cours de gymnastique. Alors j'ai rigolé, je me suis dit, pouf, eh ben pas du tout. le professeur était sympa, les élèves aussi, parce que c'est de la gymnastique sans complexe.
Eh bien, merci beaucoup Bernadette pour votre témoignage au 04 72 38 20 23. Alors voilà, ça aussi c'est intéressant, Fabrice Boisjumeau, Bernadette qui nous disait j'étais la pire des élèves, en tout cas pour le sport. Elle n'est pas seule, il y en a beaucoup des Bernadette, je pense, encore aujourd'hui, qui soit ont des mauvais souvenirs des cours de PS ou encore aujourd'hui qui ont du mal avec ça. Comment on fait, Fabrice, pour motiver les Bernadettes?
Ben, on adapte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, effectivement, l'adaptation de l'activité est devenue un passage obligé. C'est-à-dire, je prends un exemple. Avant, c'était une seule consigne pour les élèves, et puis soit tu y arrives, c'est très bien, tu n'y arrives pas, bah, tu passes sur le côté où tu t'assois et tu regardes les autres faire. Je caricature, hein, mais on aurait pu avoir des expériences comme ça. Aujourd'hui, les enseignants adaptent l'activité physique justement aux capacités des élèves. Alors ça peut être des élèves qui ont du surpoids, ça peut être des élèves qui ont des problèmes d'équilibre, ça a été évoqué, des problèmes de coordination importants. On a de plus en plus, nous, dans nos cours, ce qu'on appelle du sport inclusif. Hein. On a aussi des élèves qui sont porteurs de handicap dans nos cours de PS ou dans nos cours d'association sportive et pour lesquels on adapte l'activité. Hein. Donc ça peut être des adaptations sur l'aménagement matériel, sur les règles, sur les partenaires, le rôle des partenaires avec le jeune, sur aussi ce qu'on attend du jeune, c'est-à-dire qu'on a des barèmes aujourd'hui en fonction des élèves qui ne sont pas les mêmes. Moi, je prends un exemple, on peut très bien avoir un élève qui parce qu'il a une maladie, va avoir un barème différent sur une activité de longue durée. Par exemple, on va l'autoriser à faire peut-être moins, à faire de la marche rapide plutôt que de la course à pied. Enfin voilà, donc effectivement, aujourd'hui, on a la chance, et les jeunes ont quand même cette chance-là, d'avoir des entrées variées, je l'ai dit, avec beaucoup un choix d'activités où normalement, on retrouve forcément des activités vers lesquelles on a plus d'appétence, et puis en même temps, des enseignants qui, dans leurs cours et dans leurs évaluations, adaptent aussi. Donc, il y a plus cette stigmatisation du jeune qui était pas sportif et pas avec une vision de pas être un bon élève. Non, tous les élèves ont leur place en EPS aujourd'hui. Ouais. Enfin, j'espère.
Ouais. Si on regarde de plus près les véritables défis qui sont liés au sport à l'école, Vincent Lougier, déjà, on constate peut-être un manque de formation des enseignants autour de la pratique sportive, voire de PS d'ailleurs, Vincent Lougier. Ça, c'est quelque chose ce sont des remontées que vous avez eues.
Alors, je crois que la remarque que vous faites, elle concerne, enfin, c'est un petit peu ce qui avait été suggéré tout à l'heure dans nos échanges.
Oui.
La remarque, elle concerne peut-être surtout le premier degré, dans le sens où les enseignants à l'école élémentaire sont formés de façon multidisciplinaire et que probablement que la dimension éducation physique est celle qui est la moins développée. Dans le secondaire, au lycée ou à l'université, vous avez des enseignants qui sont dédiés à l'éducation physique, et du point de vue de leur formation, je crois que les choses se passent plutôt bien, voire même très bien. Donc là, je crois qu'il faut faire la différence. Oui. La deuxième chose, je voudrais rebondir sur le témoignage de Bernadette. Je pense qu'il est intéressant. On voit bien à travers son témoignage qu'elle considère « j'étais mauvais élève ». Et je crois que c'est ça qu'il faut arriver à changer. Le but du jeu, c'est pas d'être un bon en sport. Le but du jeu, c'est de bouger. Autrement dit, quelqu'un qui fait de la marche tous les jours pendant une demi-heure et qui s'impose de monter dans son appartement par les escaliers plutôt que par l'ascenseur, etc., etc. Tout ça, ça participe d'une activité physique qui n'est pas du sport. Et à ce moment-là, bah, je veux dire, tout le monde marche et on n'est pas mauvais ou bon marcheur au sens où on pourrait l'imaginer comme étant mauvais ou bon élève en éducation physique.
Fabrice Boisjumeau, qu'en pensez-vous?
Sur le premier point, effectivement, je pense que sur le secondaire, sur les formations, ce qu'on appelle les STAPS, c'est plutôt de qualité. On a des enseignants qui sortent de formation, c'est certainement même les enseignants les mieux formés, hein, je parle de toutes les matières, hein, parce que faut savoir qu'un enseignant d'EPS voit dans son cursus de formation des élèves est en stage régulier, a des cours spécifiques sur la création de séances, de contenus, et c'est une formation très très complète. Ce qui n'est pas le cas dans les autres matières. Hein, où moi, on a des enseignants qui arrivent au concours et qui n'ont jamais vu un élève de leur vie. Donc ça pose encore question. Sur le primaire, par contre, là, je rejoins Vincent. On a même la formation chez les enseignants qui donc les professeurs des écoles, la place dans les maquette de formation de l'éducation physique et sportive a presque été diminuée de moitié. Moi, j'ai eu la chance d'intervenir en tant que formateur sur des centres de formation au premier degré. Et quand je vois aujourd'hui les maquettes de formation, on est presque moitié moins de temps de formation autour des activités et de l'EPS à l'école. Donc ça pose question parce qu'on nous demande, le président de la République nous demande et donne des injonctions aux enseignants, mais en même temps, la formation ne leur permet pas d'avoir les outils et les compétences pour pouvoir enseigner correctement l'EPS. Et la formation continue encore moins, hein, puisque la formation continue globalement a été réduite également pour pouvoir permettre aux enseignants de se former à l'EPS. Donc on essaye nous modestement, et c'est un des enjeux de notamment à la Fédération de l'enseignement catholique du sport, la Luxel, c'est de proposer des formations aux enseignants du premier degré pour que régulièrement ils puissent monter en compétences et permettre de faire une éducation physique et sportive construite à l'école. Ouais.
On va accueillir Nicole dans un instant, juste sur cette notion de mauvais élève, et merci beaucoup Vincent Nouget d'avoir relevé ça, parce que en effet, ça a pu quand même en perturber beaucoup. Alors, bon, je suis très concerné par ça, parce que j'étais un mauvais élève pour le coup au niveau du sport, et ça m'a vraiment perturbé par rapport à mes camarades. J'avais vraiment l'impression d'être exclu, et par eux, et par les professeurs d'ailleurs, Fabrice Boisjumeau. Ça a tendance quand même à changer. On est moins catégorisé quand on est moins sportif, quand on aime moins le sport.
Oui, parce que aujourd'hui, je l'ai dit, hein, les activités sont plus variées et puis les entrées sont variées. C'est-à-dire que on va pas évaluer un élève uniquement sur sa performance sportive aujourd'hui. On va l'évaluer aussi sur ses rôles sociaux. On va l'évaluer sur sa coopération. On va l'évaluer sur sa capacité à analyser sa pratique, à maîtriser son activité physique. Aujourd'hui, un lycéen, il doit être capable quasiment de comprendre comment bien s'échauffer, quels sont les enjeux, comment mettre en place des exercices progressifs pour pas se blesser. Il anime des fois en cours, ce sont les élèves qui animent l'échauffement. Donc vous voyez, un élève, quel que soit son niveau sportif aujourd'hui en EPS, il a à chaque fois une clé, une entrée possible, et surtout les enseignants font très attention effectivement au fait qu'on puisse différencier les situations pour que chaque élève en fait puisse y trouver sa place. Donc je pense effectivement c'est quelque chose de très positif dans la vision de l'EPS aujourd'hui, qui permet effectivement aux élèves de trouver leur place et de pas se sentir dévalorisé un petit peu, parce que c'est un peu de ça dont on parle.
Bonjour Nicole.
Oui, bonjour Melchior.
Vous êtes en Vendée, c'est à vous.
Et bonjour aux invités. Oui, je pense qu'il y a des approches différentes au niveau du sport. Moi, je sais que au niveau scolaire et au niveau familial, puisque mon père était un cycliste et il faisait donc les tournées à l'époque de courrier en vélo, et je le suivais le jeudi. Il m'a fait aimer le cyclisme, hein, ce qui m'a permis de faire de la compétition. Et au niveau de l'école, j'ai eu la chance d'avoir un professeur extraordinaire, hein, Monsieur Lachaise, qui malheureusement ne doit plus faire partie de notre monde, et qui m'a permis aussi, en me donnant confiance et autres, de m'apporter beaucoup d'estime de moi et de reconnaissance de ce que j'étais, parce qu'à l'époque j'avais un peu de surpoids, et pourtant j'arrivais à faire quelques, disons, pour moi c'était des performances, hein, puisque au vu des capacités que je méprisais, disons, sur moi, et il m'a donné une confiance énorme. Et je pense que le sport, sur beaucoup d'enfants, peut permettre de développer justement cette estime de soi, sa reconnaissance, cette reconnaissance. Et par ailleurs, j'ai fait du basket, puisque j'étais entraîneuse pendant pas mal d'années, et un esprit d'équipe, compte tenu que le basket, si vous êtes 5, vous êtes 5, hein, si vous jouez 1 contre 5, vous avez du mal. Et j'avais l'habitude de dire à certains petits que j'entraînais, qui voulaient jouer un peu individuellement, je faisais sortir les 4, je lui disais, vas-y, joue. Et là, il était un peu perdu, j'ai dit, tu vois,
Le basket, c'est un esprit d'équipe, c'est un partenariat. Mmh. Et on a des amis, donc on joue avec, et c'est avec eux que tu marqueras un panier, c'est pas avec, c'est pas tout seul. Et le panier que tu marqueras, eh bien, tu pourras remercier celui qui t'a envoyé la balle au bon moment, au moment précis où tu étais au bon endroit. Et je pense que voilà, je pense que le sport fait partie, doit faire partie de la vie de chacun, à différentes manières, hein, que ce soit en douce ou en plus poussé, oui. Ou en compétition. Mais je pense que c'est très important parce que, comme disaient certaines personnes, ça développe de
l'estime de soi, et vous l'avez dit, Nicole, et c'est vraiment ce que je vais retenir de votre témoignage. Pardon, je me permets de vous couper la parole. Ça passe très très vite, on arrive déjà à la fin, j'avais même pas regardé l'horloge. Vincent Nougier, ça développe l'estime de soi, le sport, ça rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit d'ailleurs dans cette émission-là, ce matin.
Alors, non seulement ça développe l'estime de soi, mais je dirais même que la problématique de l'estime de soi est aussi un des freins justement que l'on a dans le domaine de la pratique de l'activité physique, en particulier chez les adolescents et en particulier chez les adolescentes qui, à un moment donné, bien sont pas très bien dans leur corps, etc. Et justement, un des enjeux, c'est d'arriver à faire en sorte que ces jeunes prennent confiance en eux, se rendent compte qu'ils sont capables de faire un certain nombre de choses, que c'est pas parce que leur corps change ou parce qu'ils sont un petit peu en surpoids ou parce qu'ils sont un peu gauchers entre guillemets, qu'ils ne sont pas capables de bouger et de produire des performances. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, le développement du sport paralympique est intéressant parce qu'il montre aussi que c'est pas parce qu'on est handicapé que pour autant on n'est pas capable de fournir des prestations qui sont souvent bien supérieures à celles de Monsieur Tout le Monde. Mmh. Et là, de ce point de vue-là, c'est un exemple sur lequel je pense qu'il faut réfléchir un petit peu et s'attarder, parce que on voit bien que un handicap peut devenir une force. Un handicap n'empêche pas de faire des prestations exceptionnelles. Et donc c'est là où on se rend compte que tout ça est très relatif. Et c'est pour, je voudrais rebondir un petit peu sur le commentaire qui a été fait tout à l'heure. Une des caractéristiques aussi de l'éducation physique à l'école, c'est que on met beaucoup en valeur dans la notation la progression individuelle, non, oui, pas la performance en absolu, mais le progrès relatif, ce qui n'est pas vrai dans les autres disciplines.
Fabrice, je crois que vous vouliez réagir. Oui.
Non, mais l'estime de soi, ça, c'est ce qui est transversal. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à mettre un élève en confiance, qu'il se sent valorisé dans ses activités, et c'est surtout ça, en fait. Je pense que dans le témoignage qu'on entend, c'est quel regard porte l'adulte sur le jeune, quel qu'il soit, porteur de handicap, surpoids, en difficulté motrice, des difficultés de coordination, des problèmes, voilà. Et je pense que la place de l'adulte et le regard qu'on porte pour valoriser les progrès de l'élève, puisque ça vient d'être relevé et c'est vrai, c'est ce qui permet effectivement aux jeunes de retrouver l'estime de soi. Et c'est un des enjeux essentiels aujourd'hui à l'école, hein. Ça, on le sait, mais aussi en dehors, dans le sport scolaire, le sport en club. Voilà. La place des éducateurs est, ouais, fondamentale à ce niveau-là.
Alors, je récapitule parce qu'on a dit beaucoup de choses dans cette émission, vraiment pour favoriser le sport à l'école. Ça passe par encourager finalement les élèves, hein, ça passe par la motivation, la participation, faire attention à l'inclusion et l'égalité, et ça, on vient d'en discuter, renforcer la formation et le soutien aux enseignants. Et on a peu parlé des infrastructures et des ressources. Vincent Nougier, qu'est-ce qu'on observe en France, dans les établissements? Est-ce que c'est aussi un manque de moyens?
Alors, je pense qu'il y a deux dimensions là-dedans. Évidemment, les infrastructures sont un élément important. Il y a beaucoup de disparités selon les régions, selon les villes, etc. Ou en fonction dans les campagnes, par exemple, c'est une difficulté parce que les infrastructures sportives ont des coûts souvent très, très importants. Je pense en particulier aux piscines. Ça, c'est un premier point. En même temps, je crois qu'il ne faut pas non plus prendre cela comme étant une excuse en disant « j'ai pas d'infrastructure ». Parce qu'il y a plein d'activités physiques que l'on peut faire sans pour autant avoir des infrastructures très élaborées. Et donc, je crois que là, il faut être un petit peu raisonnable. Les infrastructures, oui, mais mettre ça en avant comme étant un obstacle, l'obstacle, oui, principal, je ne suis pas certain que ce soit la bonne façon de réfléchir et d'avancer.
Vous confirmez, Fabrice Bois-Dumont, en un mot?
Oui, je confirme. Alors, effectivement, c'est très disparate. J'ai une crainte, c'est que entre les annonces et les moyens qui resteront post-JO, on nous parle d'héritage. Je suis pas sûr qu'on arrivera à développer tous les projets qui étaient annoncés, ça on verra. Mais par contre, effectivement, la capacité à proposer des activités physiques, elle ne tient pas que des infrastructures, puisque effectivement, il y a plein de choses que l'on peut faire sur une cour d'école, sur un terrain en plein air, sur un terrain de foot, dans un bois. Enfin voilà, il y a. Mais c'est vrai que je pense notamment au savoir nager, par exemple. Là, par contre, c'est un vrai enjeu. Et ça, un jeune qui ne sait pas nager, c'est pas possible. Et l'accès à des piscines, par exemple, ça doit être fondamental. Et là, là-dessus, on a un vrai déficit, par exemple.
Merci beaucoup à tous les deux. Retour au vestiaire hein, pour vous, Fabrice Boisjumeau et Vincent Louget. C'était très intéressant. On a parlé de beaucoup de choses. Vincent Louget, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Grenoble-Alpes et responsable du groupement de recherche NRS Sport et Activité Physique. Merci, Vincent, d'avoir été avec nous depuis Grenoble, dont on remercie également l'équipe. Fabrice Boisjumeau, chef d'établissement du Collège Saint-Louis à Saint-Jean-Brévelay dans le Morbihan et puis vice-président de Luxel. À tout de suite pour la seconde partie de l'émission.